câte ia și zic, câte ai ia și zic asta, că mult îmi c'est un conseil d'administration de l'équipe de banque de petits programmes, que c'est un gars qui arrive avec un projet d'élection comme petits programmes, exactement comme à l'ONF. Sérieux. Il n'y a pas d'ouverture de libération des vergers nulle part. Là, ça commence, on verra, ça est en partie. Pas d'expérience, pas d'ouverture. Tu rentres là, tu as l'impression que tout le monde s'ennuie, et tout le monde s'ennuie effectivement. C'est laid. Il n'y a pas d'accueil, il n'y a rien. Et puis c'est vertical. C'est d'autant plus grave que tu ne peux pas planifier le bénévolat, tu ne peux pas planifier c'est d'autant plus grave que le lieu de décision d'une télévision, c'est au niveau des créateurs, au niveau des articles. C'est la petite chose.
Idéalement, ça devrait fonctionner quand même au niveau des structures.
Je sais pas. Je sais qu'en aucun moment dans le cas de Saint-Jérôme, on a analysé les liaisons qu'il y avait entre la structure de la compagnie. Est-ce que c'était une compagnie sans lucratif qu'on devait faire ou une coopérative? On n'a jamais fait d'analyse des liens qu'il pouvait y avoir, de conséquences entre le projet qu'on avait et puis les structures administratives. Pour la très simple raison que le projet n'a jamais eu. T'sais. On n'a jamais fait non plus de lien entre la technologie qu'on allait développer, c'est une directe, c'est l'aide, c'est le studio, etc., et le projet, on n'avait pas de projet. Ça n'a pas été fait. Il n'y a pas eu de projet à Saint-Jérôme. Il y a seulement un animateur, c'est tout. Il n'y a jamais eu de projet politique. J'avais des projets au niveau des contenus, de telle sorte que on se retrouve devant le vide, on ne peut même pas faire d'évaluation. Tout ce qu'on peut dire dans l'évaluation, c'est faire un portrait journalistique des alternatives des questions qui se posent après et qui devraient résoudre. Quelles questions devraient résoudre au niveau du communautaire? S'ils veulent faire avoir un projet communautaire, c'est quoi un projet communautaire?
C'est quoi un projet communautaire?
Oui, mais juste ben, une petite question avant la rajoutation. C'est que dans le fond, tu dis il y a juste un projet technologique. Mais est-ce que le projet technologique, dans le fond, n'a pas aussi alourdi le fait qu'il n'y a pas pu y avoir de projet politique? Je m'explique. Dans le sens où il était censé avoir un émetteur de 5 watts, là, c'est rendu à assez gros. Mm-hmm. C'est rendu que c'était censé fonctionner avec un budget de 10 à 12 à 15 000 pièces par année. Au début, mais après à 40 000, puis là, c'est rendu à 105 000 par année. Je ne sais pas, c'est quoi ta réaction à ça?
Ben là, je pense qu'il y a eu des sous-évaluations de la part du vidéographe à tous les niveaux. J'ai plus tendance à croire les ingénieurs du ministère des Communications que forger sur ça. J'ai comme l'impression que les évaluations faites par les vidéographes de l'émetteur étaient mal faites. Que, à part deux ou trois gadgets qu'ils ont pu acheter, comme le télé-ciné, que ce qu'ils ont acheté était élémentaire. Ils sont allés au plus bas de ce qu'il y avait sur le marché actuellement. Quant au coût de production, Forger a toujours eu tendance à les diminuer. Aller dans ses prévisions. Et puis ça, c'est une tendance de bien du monde d'essayer pour passer un projet de diminuer les coûts. Quand ils ont le OK, ils les augmentent. Au lieu de dire exactement la réalité au départ, parce qu'ils la voient pas. T'sais. Et les coûts de production peuvent peut-être diminuer un petit peu si tu ne payes pas 23 000 pour le directeur, si tu ne payes pas 12 000 15 000 pour les animateurs, si tu as des salaires plus liés à la structure salariale de ces gens. Les coûts de production peuvent un petit peu diminuer. Je ne pense pas que l'investissement sur les moteurs soit... Les coûts de capitalisation, c'est vraiment très important. C'est les coûts d'opération qui sont.
Joli. Juste à ça aussi, il y a la question de...
Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que maintenant, c'est très difficile de faire un projet communautaire. Dans le moment, c'est même difficile de faire un projet communautaire à Saint-Jérôme, parce que toute crise de projet communautaire est prise dans la grille de l'émetteur. Les gars sont obligés de se mettre à réfléchir sur l'émetteur pour réfléchir à leur vie. Les gars qui veulent y penser. Alors que si tu n'avais pas eu cette maudite émetteur, au point de départ, ils auraient pu faire un projet et choisir après les technologies qu'ils voulaient. Ça pouvait être un pull-table, peut-être Microsoft, peut-être l'écrit, peut-être le dialogue de parler, peut-être le groupe chat, peut-être n'importe quoi. C'est plus possible actuellement.
Mais idéalement, c'est quoi un projet communautaire en télévision?
Je veux dire franchement que je ne sais pas. Pour la très simple raison que dès que tu embarques dans la télévision, tu embarques dans des schémas théoriques qui sont aberrants par rapport à un projet communautaire. Le premier schéma dans lequel tu embarques, ça c'est extrêmement important. C'est tout le schéma qui a été élaboré à partir de la naissance de la radiodiffusion. Tu as une réalité, là, tu as un émetteur Il y a des bonhommes dedans qui envoient des messages à un public indiscriminé. Tous les concepts juridiques sont basés sur ça. Comme il y a un monopole, il y a un monopole culturel, comme tout le monde peut écouter de façon indiscriminée, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, quel que soit la religion, on a dit, tout le monde doit avoir accès. Il ne faut pas qu'il y ait de... C'est dans tous les pays qu'il y a pas de ça. Il ne faut pas qu'il y ait un pluralisme d'exprimer. C'est, en tout cas, en Amérique, c'est comme ça, on a toute une démocratie libérale. Quand tu te retrouves avec un petit émetteur comme à Saint-Jérôme, tu te retrouves avec le même concept. Je veux dire que derrière la radiodiffusion, c'est-à-dire le pluralisme des points de vue, avec la radiodiffusion, un groupe communautaire n'exige peut-être pas le pluralisme. Un groupe révolutionnaire n'exige peut-être pas si tu veux changer les choses. Tu dois pousser un objectif au bout, une contradiction au bout, à l'encontre, pour faire éclater le système. Comment peux-tu jouer du pluralisme à ce moment-là? C'est contradictoire à la base, comme concept. La télévision en Chine, si elle existait, je ne sais pas comment elle serait, mais je ne pense pas qu'elle serait basée sur le pluralisme. Je pense pas. Et il y a deux là, je pense qu'il y en a. C'est tout. En Russie, je ne sais pas comment elle est. Mais je suis sûr qu'elle n'est pas basée sur les mêmes. Elle n'est pas basée sur une partie unique, sur un consensus, sur une ligne. On peut être d'accord ou pas d'accord avec l'idée d'une ligne politique.
C'est
à gauche ou à droite, à l'extérieur. Mais c'est une autre façon d'organiser la vie sociale. Et c'est une autre façon d'organiser les vies politiques. J'ai comme l'impression qu'on... Ça, c'est éliminé au départ par la TVC, cette option-là. À cause même de ses fondements juridiques. Alors que ce n'est pas dans les groupes vidéo. Ce n'est pas sur le câble aussi à cause de la multiplicité des canaux aussi.
Non,
avec l'émetteur, tu es pris dans toutes sortes de grilles, des grilles juridiques, des grilles financières, des grilles sur la nécessité d'avoir tout le public en même temps. Tu sais. Les gars de Saint-Jérôme, j'ai remarqué, ils n'ont pas pensé en termes de public spécifique, de cible. Ils pensent toujours en termes de public indiscriminé aussi. Tout le monde en même temps. Comme Radio-Canada, comme Radio-Québec. C'est un public anonyme, même si c'est petit. Une communauté n'est pas basée sur le public anonyme. Ça ne tient pas debout, c'est contradictoire. Et basé sur un public spécifique qui a une singularité, qui a des... C'est ça? Je ne sais pas si tu comprends ce que tu veux dire.
Oui, je comprends.
Il y a plein de contradictions comme ça au niveau intellectuel dans ce projet-là, qui n'ont jamais été développées. C'est pour ça que mon rapport est purement déductif. J'ai décidé de parler à l'induction, je n'avais pas d'analyse ce qui s'est passé, mais de prendre les hypothèses et les développer. Essayer de voir où il y a contradiction ou pas, puis faire ses choix.
C'est fait pour qui, ça, de l'avance?
Moi, l'adresse sur toi, Saint-Jérôme, pour être utile, pour pas oublier ça, on adresse ça. C'est pensé exclusivement pour Saint-Jérôme. C'est pourquoi il faut mettre 2-3 pages sur les aspects juridiques. Les condensés fédéraux pour le Québec le connaissent, hein. Les gars de Saint-Jérôme ne le savent pas. Pour savoir à quel pétrin ils sont embarqués au niveau du contentieux. Je veux qu'il y ait un petit tableau clair de la situation. C'est quoi le 1539? C'est quoi la loi de la radiodiffusion? C'est quoi l'histoire? C'est quoi la nature du contentieux? C'est quoi l'éducatif? Le ministère n'a pas besoin de ça, je le fais pour eux. Juste pour qu'ils aient une sorte de portrait et qu'ils puissent être contre ou pour mettre les actions dedans. Ne juge pas.
Mais quand tu parles des groupes vidéo, des TVC, tu as dit un affaire tantôt qui m'a fait cliquer à propos de l'explicitation de la ligne politique. La ligne politique, ça devait être explicite. Mais est-ce que c'est pas en faisant ça de la part des groupes, si tu prends, bon, t'as Scram puis t'as d'autres groupes, là, c'est pas
fini. Tu perds les subventions.
C'est ça.
C'est ça le problème.
Je veux dire, ils se fourrent eux-mêmes, c'est,
bon, mais
c'est suicidaire.
Ça dépend. C'est pas nécessairement suicidaire. Ça dépend s'ils peuvent trouver à côté des complices. Ça dépend des complices qu'ils trouvent.
C'est aberrant.
Ils peuvent peut-être en trouver, puis toute la dimension, c'est de trouver des bons complices. Il y a des endroits qui peuvent être complices un certain temps, même l'éducation. Il ne faut pas que l'éducation récupère un communautaire trop dangereux comme structure. Mais il y a, à la base, un milieu éducatif, des galfondes, des fois. Il y a des complices que tu peux avoir, des détournements de fonds que tu peux faire aussi, à l'intérieur même des structures libérales. Mais il faut jouer de la guérilla. parce que c'est marginal de l'extérieur. Comment une marginalité devient politique? C'est presque pour que tu poses la contradiction assez longtemps. Donc, il faut que tu choisisses la bonne contradiction pour qu'elle ait la possibilité de faire éclater le système. Ça, c'est le même difficile. Et Chris, au niveau politique, personne ne sait où aller.
Mais dans le fond, tu es en train de dire.
On ne sait pas, moi, je ne sais pas.
Tu es en train de dire, dans le fond, que Chris, technologiquement, c'est difficile de faire éclater des contradictions si on n'a pas d'objectif politique.
On ne peut pas.
On ne peut pas.
Là, c'est certain.
C'est la barre. Puis moi, l'année passée, vous étiez au CDMC de la gang, vous étiez Chris Écoutier, quand ce que t'as fait, là. Moi, j'étais très heureux. Je voyais 12 gars qui enfin parlaient de ça.
C'est bien.
Chris, c'est 12 gars qui en parlent. C'était 12 autour d'une table, ils m'engueulaient. J'avais parti
une subvention. Ah
ouais. J'ai dit Chris, j'ai 12, puis il y a un an, il n'y avait personne qui parlait de ça.
C'est pour vous situer dans ce. Il dit qu'il veut faire des choses, changer le système, puis il a l'impression qu'il y a moyen d'avoir des alternatives, mais il ne sait pas pendant tout où il se situe dans le milieu de la production vidéo, dans le fond.
Bon, puis en part de ça, il faut revenir aux théories des communications. Si les contenus ne s'inscrivent pas dans une action, absolument perdu. Si ils sont, il faut toujours se mettre du côté du récepteur, du gars qui pige, qu'est-ce qu'il pige? Peut-être est lié à la structure dans laquelle il est, la structure de parenté, la structure de relation, les groupes dans lesquels il travaille. Les stratégies ont été élaborées. Je n'ai pas l'impression. Accepté dans les groupes précis, comme intermédiaire, comme point de vue. Mais c'est encore très aléatoire. Et je pense que la tâche qu'il y a à faire, moi, c'est de faire des monographies des leurs projets actuellement. On en parlait de l'heure passée, mais c'est toujours ce qu'il faut faire. Des monographies des divers projets en cherchant dans ces monographies-là l'explicitation des pratiques. Il y a eu des pratiques et on n'a pas vraiment communiqué de façon rigoureuse sur la liaison entre les pratiques et les objectifs politiques qu'on poursuivait. C'est-à-dire, le modèle pour le faire, c'est très long et très difficile. On peut se parler, tu comprends, mettre les choses ensemble.
Mais ça demande une pratique très soutenue, c'est une pratique très rigoureuse, ce qui demande normalement des fonds. Puis ces fonds-là, je pense que les groupes ne peuvent pas les attendre perpétuellement avec les gouvernements en place. C'est-à-dire que le gouvernement ne t'achètera pas des fusils puis ne t'achètera pas des porte-à-pac pour se faire.
Je ne vois pas la solution pour ce côté financier actuellement. Il y a eu beaucoup de recherches pour le ministère en voulant utiliser l'argent qu'il y avait de donner pour les cadres. Il y a des efforts qui ont été faits pour retrouver l'argent. Il y a 1 milliard 800 millions en éducation, c'est l'argent. Savoir s'il y avait des secteurs éducatifs qui étaient plus larges les uns que les autres. Dans les syndicats, il y a un peu d'argent, mais c'était très étroit au niveau des libertés qu'ils ont dépensées. Parce qu'ils ont des priorités immédiates. D'action militante. Quand les gars sont en grève, c'est d'avoir des gars de quartier dans les autres, d'avoir des manifestations. La priorité, voilà, c'est ce que tu veux. Ils sont dans l'action immédiate, ces gars.
Je sais pas. C'est peut-être plus efficace en fin de compte que.
Pour moi, ça m'apparaît plus efficace.
Parce qu'on a eu tendance à me demander, en tout cas, j'ai eu l'impression que quand on a commencé à parler de vidéos de mi-pouce, de communication, de réseau, de communication, de médias communautaires, de faire l'espèce de renversement de situation, de moyens, de fins pour qu'on utilise le moyen. Le moyen devenait souvent une fin en soi.
Les objectifs, moi, ça m'a beaucoup aidé comme communautaire. Je ne veux pas être danseur parce que quand tu es danseur, il faut que tu vives dans ça. Tu acceptes de recevoir des 10 000 $ par année, c'est comme tout le monde. Et si tu ne fais pas ça, il est inutile d'y aller. C'est une historique qui part. Et moi, ce que ça m'a donné, c'est que quand on est entré dans le communautaire, on est entré venant des mass médias. Puis on allait contester les mass médias aussi, l'ensemble du système de communication. Et puis tout ce que ça m'a fait toujours me brancher sur les technologies en termes de marge de manœuvre. Quelles sont les marges de manœuvre qui restent possibles, compte tenu des contraintes. Il y a des contraintes dans les grosses technologies comme la radio, la télévision, la masse. C'est-à-dire avec Dieu, c'est pour pas jouer à tous les jours, il faut que la démission soit là. Quelles sont les marges de manœuvre au niveau de la décentralisation, au niveau de la, des infrastructures du culte, de ce qu'on a, des structures syndicales, il y en a-t-il? Parce qu'on vit à l'intérieur de modèles qui bloquent beaucoup d'imagination de ce côté. Quelles sont les marges de manœuvre qui peuvent exister au niveau des structures de programmation, telles qu'on les a connues jusqu'à maintenant dans les masses médias, il y en a-t-il? Ça n'a jamais été vraiment analysé en termes de...
De façon, qu'est-ce qui connaît la programmation actuellement?
C'est surtout le processus de décision qui m'intéresse. C'est comment les réalisateurs travaillent, comment ils décident de leurs émissions, comment on perçoit les besoins du public, etc. On n'a jamais fait d'analyse en termes de vouloir changer, de vouloir voir les seuils critiques, les marges de manœuvre. T'sais. Il y a des décentralisations dans lesquelles on ne peut pas aller. Ça coûte trop cher. Trop de ressources. Il établit ses standards techniques, il change les structures syndicales, il change les structures juridiques au niveau du copyright. Si tu changes le type de production que tu pourrais faire, on l'a jamais fait, l'analyse vraiment. Au niveau de la gestion, par exemple, à Radio-Québec, tu pourrais avoir, au lieu d'un réseau centralisé comme celui de Radio-Canada, avec des stations affiliées, tu pourrais avoir des stations complètement locales, régionales, complètement indépendantes au niveau administratif. Relié au réseau.
Type Saint-Jérôme. Type Saint-Jérôme.
Non, là, c'est un grand réseau. Il faut que ce soit régional, évidemment, qu'il y ait une barre. Il y a aussi des marges de manœuvre possibles. Il y a.
Ça, c'est des CLSC des portes à pack. Ça, c'est créer des CLSC des portes à pack.
Il faut essayer de savoir.
C'est une forme récupératrice aussi.
Oui. Il faut savoir ce que ça peut donner. Mais tu ne peux pas ne pas utiliser la grande télévision, Chris, elle existe. Mais ce que je voulais dire, c'est que le communautaire n'était pas lié à un palier seulement. Il était lié à une contestation du contrôle de l'ensemble des communications. Puis ça doit rester là, y compris le téléphone, y compris l'insertion des technologies.
Est-ce que, j'avais envie de te poser une question tout à l'heure, dans le fond, quand tu parlais de Saint-Jérôme, ça me faisait penser aussi au Théogaste, qui était un peu le père de Saint-Jérôme. Comment ça se fait que, dans le fond, à Saint-Jérôme, la structure qui a été reproduite à Saint-Jérôme, dans le fond, n'est pas loin de celle du Théogaste, à Montréal?
Oui, j'ai réussi déjà, oui.
Avoir manqué le bateau à Saint-Jérôme, c'est aussi avoir manqué le bateau à Montréal, puis c'est répété.
Peut-être comment je voyais la peine du Théogaste, j'ai expliqué. Quatre types d'intentions. L'intention technologique, l'intention communautaire, l'intention éducative, et l'intention politique. La seule qui a été développée en termes d'objectifs, donc de stratégie, c'est l'intention technologique, d'avoir un émetteur. Donc, Chris, les gars, on commence pas. Facile, ça. L'intention communautaire n'a jamais été développée. L'intention éducative, absolument pas. L'intention globale politique, là, pas en tout. Ils disent, par exemple, à un moment donné, on voudrait qu'il y ait que l'organisation communautaire contrôle à la fois la production et la diffusion sur le câble et sur l'émetteur. En aucun moment, les gars, on fait l'analyse des lois, de la réglementation de la régie, de la réglementation du CRTC pour établir une stratégie pour les contester. Parce qu'à l'intérieur de la réglementation actuelle, ils ne peuvent pas. Juridiquement, comme l'instructeur ne peut pas laisser aller le contrôle de ce qui se passe sur son câble à l'organisation communautaire. L'organisation communautaire, d'autre part, a une charte comme une radiodiffuseur qui est liée à ça et ne peut pas intervenir sur le câble distributeur. Ben, ils ont une intention. Ils ne la développent pas. En aucun moment. Ils n'ont rien développé. C'est pourquoi il n'y a jamais de projet dans ce projet-là. Et tu ne peux pas évaluer. Tu peux seulement leur dire, mais vous n'avez pas développé votre projet. On ne sait pas où vous allez. Oui, c'est une vidéographe, c'est la même chose.
C'est eux autres qui ont parti Saint-Jérôme. Puis à Montréal, à un moment donné, il était question de se lier au syndicat. D'après toi, comment ça se fait que ça s'est pas fait?
Ben, c'était question de se lier au syndicat. Je pense que c'était plus. C'était très spontané comme affaire. C'était un jeu qui.
En te posant la question.
Non, ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Le vidéographe, moi j'ai essayé de commencer à récupérer à l'automne 70. En février 71, 9 mois avant qu'il naisse, c'était le conseil central. Pour essayer d'en parler à des gens. J'étais 2-3 fois. J'étais à l'agence de PSD pour leur en parler en février aussi. Ça n'existait même pas. C'était difficile pour moi de le voir, ça n'existait pas. À ce moment-là, notre théorie, qui était un peu fumiste, ma théorie à moi était que il y avait une sorte de coalition d'intérêts entre la classe étudiante et certains groupes populaires. C'était deux idéologies distinctes, mais dans les cours de citoyens, tu voyais ça à Montréal. Et je me disais que les gars qui entreraient au vidéographe seraient des étudiants et qui pourraient établir des liens avec certains groupes populaires. Et je voulais tout de suite ajouter des groupes populaires. D'abord, l'agence de Palestine, ensuite des groupes populaires comme revient un peu au Conseil central, au vidéographe, avant que ça naisse. Et je me disais que si on formait des jeunes rompus aux techniques de production, leur seule issue, ce serait non pas d'avoir une réseau de diffusion forgeur de l'année, mais d'avoir un réseau intégré à l'intérieur du Conseil central ou des comités de citoyens. Et ça travaillerait pour eux comme les animateurs avaient fait, les étudiants. Ces deux idéologies travaillent pour les mêmes raisons, mais il y a une coalition temporaire.
Possible.
Ça, on rêvait de ça. Je rêvais de ça, mon frère, en vidéographe. Je pensais qu'à ce moment-là, la formation d'une série de gars qui connaissaient la technologie, parce qu'on n'avait pas. Bon, on commençait, le mieux commençait, personne ne connaissait ça. On n'avait pas de professionnels. Elle était absolument importante, et que les liens se fassent dans ces groupes-là. La deuxième chose, c'est que dans mon idéologie à moi, dans ma prospective, je pensais que les vidéographes mourraient, et qu'ils se formaient des petits groupes vidéo. Petits, sous forme de coopérative, de petite compagnie à Montréal, et que les vidéographes ne garderaient que l'équipement sophistiqué pour le montage, pour l'animation, ça n'avait besoin, pour l'éthique, pour que les gens se payent ça. Fait que les gens, peu à peu, se paieraient leur équipement à côté, dans un petit groupe de production, et que la boîte fermerait. La troisième hypothèse que j'avais faite était que si les vidéographes continuaient, et c'est là qu'en automne, le centrage automatique forgeait, puis on ne s'est plus parlé après pendant longtemps, c'est que je voulais qu'ils fassent Harakiri. Hein? Oui, et qu'ils fassent Harakiri, c'est-à-dire qu'ils ferment la porte. Et là, je me disais, mais écoute, il y a pour 115 000 $ d'équipement, il y a un local, il y a une habitude. Les gens, ils sont peut-être prêts à le récupérer, à s'organiser vite. Ça va être un catalyseur, pour être algérien comme attitude. Mais Chris, ils sont peut-être prêts à se mettre ensemble pour essayer de le réorganiser. La seule façon, c'est de disparaître, de le fermer. Alors, disons, vous avez un bras pour le reprendre si vous voulez. Organiser. Ils sont dans le bord. Ça, j'ai pas voulu. Ils sont pas prêts. Je suis calme. On va avec des maoïstes, des gars qui connaissent rien, des intellectuels. C'est pas marché. La fin du vidéographe, je le voyais comme ça. Par quelle voie ça aurait été récupéré par le milieu, je ne sais pas. Mais la seule façon de savoir comment un objet est récupéré par le milieu, c'est d'ouvrir l'hypothèse.
Ça confirme que le milieu étudiant pourrait se greffer au milieu travailleur pour une certaine cause. Ça s'en va peut-être à l'Université du Québec.
Non, là, ça peut être très dangereux. Là, c'est la fin de... Tu sais, il y avait quand même au vidéographe... L'Université du Québec me fait peur parce que ni Forger ni la France savent dans quelle structure administrative ils rentrent. C'est au-delà des hommes, ils sont très généreux, individuellement. Mais Forger, d'abord, il est dans une situation dysfonctionnelle. Il va être embauché par l'Université du Québec, si ça marchait, comme professeur, en même temps qu'il va être directeur du vidéographe. Ses allégeances, après un an, deux ans, où est-ce qu'elles vont aller? Il va occuper un poste à l'Université du Québec. Puis un poste à l'université, elle implique des devoirs, des sortes de choses.
Même pour la position que l'Office national de suivi.
Ben oui. Alors, ça va être où ces allégeances à ce moment-là? L'université va-t-il accepter que le vidéographe garde son autonomie de gestion, son autonomie de décision, son contenu à côté de l'université aussi? À court terme, oui. Mais à long terme, je vois ça difficilement. Très difficilement.
Ça risque plus de devenir une espèce de boîte qui va récupérer les universitaires qui vont sortir
des essais. C'est ça, ils vont aller faire des essais avec les groupes, qui vont aller faire des essais.
Parce qu'ils n'auront pas de marché, ils vont les accueillir. C'est ça. Exactement, c'était la fin de catégoriquement.
Moi, la première chose que j'ai faite quand j'ai dit ça, je suis remonté au siège social. J'ai été voir des gars qui connaissaient très bien les structures. Ils m'ont dit, Chris, averti la France. Averti Forger, ils vont se faire prendre en deux ans. Parce que ça, c'est plein de dysfonctions au niveau des structures. Ils veulent mettre sur pied. Dans le moment, ça va aller, ils sont généreux, ils marchent ensemble, ils sont complices, mais l'administration a toujours, la cohérence administrative a toujours le dernier mot finalement. Sans que personne se le dise. Mm-hmm. C'est une sorte de cohérence abstraite, de bureaucratique. Pour l'avenir du vidéographe, je ne sais pas si, ça dépend si le milieu est prêt à le récupérer.
T'as vu quand on rêvait de le faire petit, c'est-à-dire quand moi je te parlais, on fallait le faire petit. Mm-hmm. Comment tu vois ça maintenant? Y a-t-il encore des possibilités avant que l'université s'en parle de ça, de faire plateau? Ma théorie, moi, en tout cas, c'est que le vidéographe tient la publicité qui est autour. Oui. Qui n'est pas autour.
À l'image.
À l'image qui est autour. Si cette image-là perd, il y a peut-être des possibilités pour que.
Il y a une chose qui nous faut.
Si l'image-là perd, il n'y a plutôt aucune source de subvention qui vient. Ouais. Si l'image-là dure, mais qu'il y a assez d'infiltration à l'intérieur pour provoquer un changement, ça risque de rester sur pied à cause de l'image encore une fois.
C'est ça. Il faut couper avec Saint-Jérôme aussi. Il faudrait, moi, une des recommandations, c'est qu'on cesse de passer par le vidéographe pour aller mettre ça à Saint-Jérôme. Que l'argent soit donné directement à Saint-Jérôme. Mais, parce que le vidéographe est absolument inutile.
Ouais, c'est inutile.
Mais c'est inutile en plus, c'est pourquoi? Pourquoi
C'est une balle.
Oui. Ça empêche les gens là-bas d'assumer leur projet d'abord, si l'on en a un. Ça met des bâtons dans les roues partout. C'est un ouvrage inutile. Leur travail est fait. Mmh. Et c'est une erreur, c'est que Saint-Jérôme veut le savoir, puis il faut qu'ils se retirent de leur public. Il faut qu'il y ait quand même des conditions bien Saint-Jérôme, on paye tant de temps, et décider si vous devez payer ou pas. Et que ce soit clair, non pas que le vidéographe avec Saint-Jérôme.
À quoi peut servir le vidéographe? Donc s'il était pris en charge par certains producteurs qui ont travaillé là, ou certaines personnes qui ont travaillé pendant si longtemps, ou certains groupes intéressés à se servir de l'outil.
Moi, j'ai pas compris pourquoi les liens ont été si difficiles entre le CDMC et le vidéographe. C'est vrai que financièrement, c'est difficile. C'est vrai qu'il n'y avait que Forget pour la publication d'informations techniques. La publication le vidéographe est une base pour ça. Si on change d'équipe, si on change d'orientation. Le centre de distribution, il va continuer d'exister. Il faut qu'il y en ait un centre de distribution quelque part. Si tu l'enlèves au vidéographe, c'est bien utile de reprendre de toute façon. Que quelqu'un le prenne.
D'ailleurs, la lutte est assez forte, parce que quand ils ont coupé le budget du CDMC, c'est la France qui était sur le jury. Ils se retrouvent à l'Université du Québec pour apprendre le vidéographe.
Il y a des services communs qui existaient entre les deux. Le vidéographe reste quand même pour le centre de distribution des documents vidéo. Pour faire le réorganiser ailleurs. Je pense que c'est important à Montréal qu'il y ait un centre de production, c'est-à-dire un centre d'équipement accessible aussi. Au moins pour la finition de projet, pour les surimpressions, pour bien les choses. Pas besoin d'avoir plusieurs. Tu peux avoir un seul centre d'historique à Montréal. Tu peux avoir une seule console. Tu n'as pas besoin d'avoir des énergies de CGF, mais souvent une HEC. Mais tu peux en rester là aussi. Là, le problème, c'est qu'ils font de la production. Ça favorise le Conseil des arts. Le Conseil des arts, lui, fait subventionner les cours directs, subventionner les vidéographes, subventionner par après. Ça le libère de tous ces problèmes.
C'est le problème politique de subventionner les groupes.
Dans le domaine culturel, ça se fait. Parce qu'il y a bien télécom.
Il y a aussi tout le. Moi, ce que j'identifie en tout cas comme le cheap labor de la production, dans le fond, tu te fais des gros parce que tu peux faire de la production, mais une fois que tu as ta production, tu t'en mets, tu peux éventuellement. Le vidéographe, peut tout taper sur trois quarts et vendre aux canaux communautaires.
L'Office national du cinéma va vendre ses productions de vidéographe et de l'Office national du cinéma au cadre du distributeur, la vidéo temps.
Oui, mais c'est $1 le document, quelque chose.
C'est le transfert.
Ils vont
$1 de document.
Ah oui, dans le moment, c'est des films, au cadre des distributeurs, c'est $1, c'est seulement nominal. Que ce soit 15 minutes, 10 minutes, 2 heures, $1, c'est tout. Et on explique que ce serait crâne. Il y a des liens politiques comme ça. Ça baisse d'ailleurs le. Ce que nous faire, les ventes, je ne sais
pas. Ça, je me demandais la source de vidéo-temps, puis j'ai envie de me dire combien de payer pour ces documents.
Les documents sont transférés par loi NFM sur cassette, je ne sais pas quelle est la politique, je me demande la forme. Mais jusqu'à l'été passé, c'était $1 pour. C'était le nominal, je ne payais même pas la manutention. Même pas.